Gravel et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
100, 2, 1.
Midi pile poil, Denis Gravel est en studio, Pascal est aux aguets.
De vous autres.
De nous autres. On est-tu bon sur l'horaire? Toujours là, à midi.
Oui, avec Denis.
Avec Denis. On s'améliore.
Ça, c'était politicien comme réponse.
Exactement.
Parce que pour le reste...
Moi, je sais que quand je suis arrivé, il y avait quelqu'un ici qui se préparait à faire quelque chose.
Oui.
Cette personne est disparue.
Elle a été flushée.
Puis je pense pas l'avoir entendu en onde, pour être bien honnête avec vous autres.
Hey, ça, c'est un segment de 15 minutes. Là. Flushée, là!
Mais on s'excuse à coach Gilbert.
Sais-tu pourquoi?
Il reviendra la semaine prochaine.
Oh. Parce qu'on parlait de crème de menthe, de shooter, des vieux verres en verre.
La vraie vie?
Oui.
Ah oui.
OK.
On est de même. Comment ça va, Denis?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va. Tu m'excuseras hein, si je me laisse traîner une fois de temps en temps.
Juste une fois de temps en temps.
Toi, tu te laisses-tu traîner? Jamais?
Ben là, attends, où, là?
Ben là, ici, mettons. À
au
station.
Bureau, non.
Non, jamais. Non. Moi, je vais t'avouer que pour ce qui est de mes tasses à café, c'est plus dur.
C'est pas plus dur, c'est épouvantable.
Si la police me recherche, je vais être facilement trouvable.
Ouais, on suit les cafés vides et froids.
Avez-vous besoin d'empreintes digitales? On en a plusieurs ici.
Le problème, c'est que tout le monde cherche une tasse pour son café quotidiennement. Puis ouais. Yannick, il laisse juste sale partout.
Mais Yann, malgré tes moindres efforts, tu seras jamais la pire personne dans mon entourage à se laisser traîner.
Ah c'est qui la pire?
C'est Audrey.
Pour
Audrey.
Vrai?
Ah oui, absolument.
Quand vous
absolument.
M'aviez montré l'intérieur du véhicule d'Audrey, puis vous m'aviez dit que quand vous ouvrez la porte, le matériel qui n'a pas rapport là tombe à terre.
Ouais, ouais, ouais.
Pis, on pense que c'est une image, mais finalement, c'est vrai.
Tu sais, dans le fond des frigidaires de job, quand on trouve des plats immondes ou ce qui reste juste un petit peu de bouffe, puis c'est jamais réclamé par personne,
ouais.
Moi, je le sais, c'est à qui. Puis c'est toujours à la
pourquoi
même personne.
Pourquoi est-ce que Véro, d'abord, envoie constamment des courriels à tous? En cherchant la personne qui se ramasse pas.
Ben, c'est parce que
dans son équipe.
Dans une équipe, il faut se faire attention les uns les autres.
Vous envoyez ça ces autres.
Fait qu'en envoyant un message à tout le monde, ben ça fait pas comme si moi puis Véro on faisait une intervention envers Audrey. <t'sais.
rire> Après, on se met tous à se questionner.
Ouais. Des gens bordeliques, il y en a toujours eu. On essaie de s'améliorer. J'ai déjà fait partie de ces gens-là, mais moi, c'est vraiment juste mes cafés.
C'est juste.
Mais je me souviens dans une autre vie radio où Denis se tapait tous les matins. Pendant combien de temps, Denis?
Mon Dieu! J'allais dire une vingtaine d'années, là, mais au moins, mettons au moins une quinzaine.
Moi, je travaillais la fin de semaine, puis la semaine, ben, j'étais pas là. J'avais un autre emploi. Puis j'écoutais Denis avec son acolyte, puis il se plaignait. En rentrant, il se plaignait.
Le lundi matin.
Le studio était pogné. Il était en bordel.
Mais ça, c'est vraiment agressant.
Et là, moi, j'étais dans ma voiture, je me disais, ouais, mais c'est pas nous autres.
Mais c'est qui?
C'est pas nous autres. C'était que le personnel d'entretien ne travaillait pas le vendredi.
Ceux qui ramassaient foutu à la merde.
Eux, ils finissaient de travailler le jeudi soir, puis ils recommençaient à travailler le lundi soir.
Fait que du vendredi matin, quand on quittait le studio, jusqu'au lundi matin, quand on revenait, tout ce qu'il y avait, c'était des animateurs de radio qui, successivement, laissaient traîner leurs cochonneries.
Okay, parce que
le
vous,
fond
à l'ancienne entreprise.
Ouais.
C'était pas les animateurs radio qui ramassaient leurs espèces
non,
de cochonneries.
Il y avait une équipe d'entretien qui était là. C'est la même chose ici, soit dit en passant.
Ben, ils nettoient,
les poubelles,
mais ils ramassent pas, Yannick.
Les poubelles, les cœurs de pommes. Fait que si quelqu'un mangeait une pomme le vendredi, mettait ça dans la poubelle, ben, c'était pas ramassé avant le lundi soir.
Il y a plus de discipline ici concernant la vaisselle sale et ces affaires-là qu'à l'ancienne place. Ça, c'est sûr.
Mais il y a une différence entre rangement et nettoyage. T'sais, moi, je considère que je suis une personne qui nettoie. Je n'aime pas l'insalubrité. Mais quelque chose qui n'est pas rangé va moins me déranger. Mais si c'est sale, c'est écrouté dans un verre, t'as laissé le verre là,
non, mais
c'est
juste...
un gros cerne dégueulasse.
Je vais juste te donner un exemple. C'est quand une poubelle se remplit depuis le vendredi matin jusqu'au lundi matin, t'as des pleurs de bananes qui sont en train de fermenter, t'as des fonds de café frites, t'as des restants de McDo,
les
puis
gars
tout ça... Ah, non, on rentrait lundi matin, ça sentait la mort et la marde.
Bon matin.
Oui, oui.
Hey, puis le matin
bonne semaine.
À
3 heures du matin, lundi. T'es pas heureux déjà d'arriver à job.
Ça sent le lilas, puis t'es genre, ouh, c'est trop.
Ouais. Les frigidaires dans les entreprises.
Horrible.
T'as-tu déjà vu un frigidaire bien classé dans une entreprise? La plupart oublient leur lunch là, pendant
bordel.
Des mois et des mois.
Je peux pas mettre mon nouveau lunch à côté d'un lunch qui est à veille de marché par lui-même.
Il y a la première façade du frigidaire où il y a un très bon roulement, mais va pas un pied plus creux. Là, parce que tout ce qui a un pied plus creux que les lunchs qui quotidiennement vont et viennent, c'est tout en train de fermenter. Là.
Ça vaut tout l'or du monde.
Yannick, je vais faire une plainte.
Pour?
Tu me fais plus jamais ça.
De quoi?
Yannick, il a une tendance au 88-971-1021 de répondre comme si c'était moi qui répondais aux auditeurs.
Ouais.
Mais des fois, il répond des affaires qui n'ont pas de sens.
OK.
Fait que je le dis en ondes. En ce moment, je règle mon linge pendant qu'on est dans le lavage.
Tu signes-tu Pascal?
Oui. C'est vraiment.
J'ai signé Audrey une fois les yeux, je me suis fait faire.
Non, puis tu iras voir quand tu auras le temps.
Ouais, OK, ouais,
le genre de réponse.
Ouais, j'aime ça.
Mais non, pas moi. Puis c'est la première fois que je l'adresse en ondes, mais c'est parce qu'il y en a une qui vient de sortir. Puis ouais.
On s'amuse. On s'amuse.
C'est vendredi, c'est fait pour ça. Ben,
hey,
oui.
Fitzgibbon est parti. Yep. Moi, je suis suspicieux par rapport à son départ. J'ai peur que dans les prochains jours, on apprenne qu'il s'est passé une catastrophe avec notre argent. Mais il y a des journalistes qui ont cette même peur-là, puis qui vont au bout des choses. Les affaires, journal Les Affaires, sous la plume de Dominique Talbot, a réussi à retrouver une entreprise qui est dans le trouble, même après avoir reçu plus de 6 millions de dollars d'investissement à Québec avec l'accord de Pierre Fitzgibbon. Écoute, il ne reste plus rien dans cette entreprise.
J'en peux rien.
Ça ne sera jamais rentable. La société est en faillite.
C'est quoi l'entreprise? Il était supposé de faire quoi? C'est-tu le panier bleu? Parce que l'histoire, on la connaît. Là.
C'est l'entreprise Vision Marine Technologies qui vit d'importantes difficultés. Il faisait des bateaux avec moteur électrique.
Ouais, ils ne sont pas passés au dragon.
Ça se vend pas. C'est un peu comme les motoneiges Taiga. Ils sont dans le trouble aussi. Ils ont eu de l'argent de Fitzgibbon. Ça va pas pantoute. T'sais, qui aurait pensé un jour qu'une motoneige qui se promène dans le fin fond du Saguenay là, pourrait fonctionner à l'électricité?
Est-ce que c'est au gouvernement de financer ces projets-là qui n'obtiennent pas d'argent ailleurs parce que les chances de succès sont pas suffisamment élevées? Puis ma question numéro 2, c'est quoi le ratio de succès qu'on permet pour ce genre d'investissement-là? C'est-tu la barre de passage comme à l'école? Tu sais, si tu as 60 % de taux de succès d'entreprises qui sont capables de se pitcher par en haut avec les subventions que tu leur donnes, tu peux dire que tu fais une bonne job. C'est-tu comme ça qu'il faut noter ça? Je suis même pas sûr de ce bout-là. Ça m'énerve, moi, de voir de l'argent qui est gaspillé sur de la bonne volonté, mais qui ne rejoint pas le côté utilitaire, logique ou pratique d'où est-ce que la société est rendue. On va-tu faire ce bulletin-là de Pierre Fitzgibbon à un moment donné? On parlait à Francis Gosselin, docteur en économie, cette semaine. Il nous disait, tu sais, pour le grand projet qui a fait le plus parler, Nordvolt, il est trop de bonheur. Tu sais, il va falloir attendre dans 5 ans, dans 10 ans, mais m'amener le bulletin, moi, je veux le voir. Tu sais, si c'est 10 % de toutes les entreprises qui ont été financées, qui ont réussi à faire de quoi, puis les autres ont toutes floppé. On pourra pas parler de Pierre Fitzgibbon comme un grand ministre de l'économie.
T'sais, le bilan, là, il est-tu rouge à la fin?
Oui, oui.
S'il est rouge, faut le dire. Là, la gang de la CAQ, là, je regardais tous les ministres qui saluaient le départ de Fitzgibbon, comme quoi c'est un homme qui était incroyable en affaires et tout ça, mais jusqu'à maintenant, il a pas mal juste dépensé notre argent, malheureusement. Il a fait des modifications dans certains départements où des gens qui travaillaient pour le gouvernement ont vu leur salaire doubler, Investissement Québec, entre autres. Là. Les salaires ont augmenté. Fait que, à un moment donné, il faut falloir que nos politiciens soient imputables de l'argent qu'ils dépensent.
Tu sais, moi, que Bill Gates se pète la gueule 4 fois avant de devenir un multimilliardaire, c'est bien correct, ça me regarde pas. C'est pas mon argent, c'est pas mes affaires, c'est ses affaires. Est-ce qu'un gouvernement peut se permettre de faire la même chose? Tu sais, pendant des années, envoyer de l'argent dans des affaires qu'ils lèvent pas, puis là, un moment donné, ils vont avoir un succès. Là, ils vont nous l'étamper beurré. Tu sais, ça va être l'entrepreneurship québécois, puis ainsi de suite. Moi, je veux une note. Je ne sais juste pas comment évaluer un ministre qui fait ça. Et je me questionne encore sur est-ce que c'est vraiment le rôle d'un ministre de l'économie et d'un gouvernement de faire ça. Les dragons sont là pour ça.
Mais je comprends. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que moi, qui ne connais pas grand-chose à la motoneige puis qui ne connais pas grand-chose au financement, je me fais dire « Hey Yann, j'ai une entreprise, moi, je fais des motoneiges électriques puis les gars qui font de la motoneige vont se procurer ça beaucoup dans les prochaines années. » Parle à n'importe qui fait de la motoneige. Là. Une motoneige électrique, ça, c'est pas utile pour eux. Ils vont aller dans les chic-chocs. Jusqu'aux dernières nouvelles, il n'y a pas de prise de courant pour se recharger. Là.
Ben non.
T'sais, c'est la même affaire pour ce qui est du Saguenay, l'accès Mont-Saint-Jean, si vous allez faire de la motoneige dans ce secteur-là, c'est très difficile de se recharger. Les gars peuvent pas faire ça dans le bois. Mais Pierre Fitzgibbon a dit « Ouais, Taïga, moteur, ça a l'air d'avoir du succès, ça. Let's go, on va investir des millions de dollars. »
Puis on n'a même pas parlé du problème humain. Je veux dire, si t'enlèves le gaz des motoneiges dans le Nord, ils vont sniffer quoi, tu sais?
Ah! Oh! Ça peut être à Québec aussi, hein, tu serais surpris.
Puis même affaire pour ce qui est des bateaux électriques. Je veux dire, qui va utiliser un bateau électrique?
C'est parce que la run est bonne, hein?
Ouais.
C'est deux, trois plugs dans le fond de l'océan, c'est pas pire avec des rallonges, je sais pas.
Mais c'est l'imputabilité avec laquelle je voulais jaser. Tu sais, pourquoi nos politiciens ne sont jamais imputables? Ils sont juste imputables aux 4 ans. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, c'est parce qu'il joue avec notre avenir financier.
Surtout s'il s'est sauvé. Parce que c'est l'impression que ça peut donner. C'est une perception qu'on a le droit d'avoir. Son mandat n'est pas terminé. Son plus gros projet de loi va passer au BAT cet automne. C'est une théorie qui se tient, ça. Il voit que ses investissements ne rapportent pas. Il y a le flair économique de voir que Northvolt, ça s'en va pas où est-ce que c'était supposé s'en aller. Il s'est-tu sauvé? Il a-tu dilapidé un paquet de fonds publics, puis qu'après ça, il a vu que ça prenait pas le bord qu'il voulait que ça prenne et qu'il a sacré son camp? Si c'est le cas, ben oui, ça prend une imputabilité, particulièrement au niveau économique, parce qu'il y a des gens qui sont capables de quantifier les succès, les insuccès, ce qui a été gaspillé. C'est de l'argent, c'est des chiffres.
C'est
ça
quoi?
Se fait.
C'est quoi l'imposition à ce moment-là?
Ben, c'est
t'sais,
peut-être
dans cette situation-là, c'est quoi l'imputabilité? Pour
collectivement, c'est peut-être de resserrer le cadre. C'est peut-être de mettre des lois plus serrées autour de ce qu'on fait avec notre argent puis de ne pas donner les coudées si franches que ça à un ministre de l'économie qui avait beaucoup de ministères, beaucoup de pouvoir. Si t'as deux, trois breaks, si t'as deux, trois personnes qui lui servent de frein dans ses élans, puis ça a de l'air, c'est pas de même qui marchait, là. C'est un électron libre qu'on laissait pas mal libre de faire tout ce qu'il voulait. Si cet électron libre-là nous avait rapporté, c'est comme une game de hockey. T'sais, si Guy Lafleur veut pas suivre le plan de match, si Wayne Gretzky veut pas suivre le plan de match, puis qu'il score 4 buts par game, tu dis, hey man, fais ce que tu veux, nous autres, on va faire un plan de match, puis toi, score des buts. Mais si tu veux faire ce que tu veux, mettons, prenons un joueur de hockey au hasard là, pour faire sourire les gens et les rendre de bonne humeur. Patrick Laine. Mettons que Patrick Laine, il fait ce qu'il veut sur la glace puis il ne score pas un maudit but. Ben, un moment donné, son coach va le rencontrer, il va dire « Hey, Tipit, c'est beau être électron libre, être un artiste avec la rondelle, mais tu ne scores pas de but. Fait que rentre dans le système puis écoute ce qu'on te dit. »
Mais dans un cas comme un ministre qui était en Pierre Fitzgibbon, qui est indépendant financièrement, qui a une position politique qui est plutôt un choix personnel et non un choix d'orientation de carrière, parce qu'il n'y a plus besoin à se prouver pareil au privé. C'est un homme, je pense, qui est foncièrement brillant, qui a pris de très bonnes décisions, qui s'est peut-être planté en politique.
Il a pris de très bonnes décisions dans sa vie financière à lui.
C'est quoi l'imputabilité dans ce cas-ci? Ce serait-tu de faire en sorte que, côté, bon, on brainstorm, côté politique, ce sera un peu à contrat. Donc, on établit un salaire X, puis si tu es capable, selon les objectifs qu'on vient de se mettre, donc il faut monter un plan énergétique, okay, d'ici telle date. Après ça, dans tes boîtes, t'as aussi, je sais pas moi, ta taxe kilomètre, peu importe c'est quoi tes projets, si tu les mènes à terme et que c'est une réussite, tu touches un boni. Donc, tu as un salaire de base qui est moindre, mais ta bonification politique est accordée à la réussite et ou au rendu d'un projet.
Et
est-ce que l'imputabilité pourrait être ça?
Puis est-ce que l'imputabilité peut aller jusqu'à, je sais pas, moi, si une entreprise a des créanciers et qu'elle n'est pas capable de les payer, bien, à un moment donné, il y a des façons de faire. Il y a des syndics de faillite et ainsi de suite. Si un ministre économique n'est pas capable de créer du rendement, à un moment donné, il va falloir que le contribuable puisse avoir son argent. Et encore là, on revient à la question de base. Est-ce que c'est vraiment le rôle d'un gouvernement et est-ce que c'est vraiment le rôle d'un super ministre de l'économie de pitcher de l'argent à toutes les entreprises? Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Moi, bien franchement, je ne suis pas sûr. Moi, je suis le genre de couillon qui te dirait « tant que ça nous rapporte, je suis pour ça ». Mais quand ça marche pas, on a de l'air d'une gang de caves.
Vraiment. Mais peut-être que, je sais pas, moi, on pourrait-tu dépolitiser ça? Parce que là, Investissement Québec est dans la même couche que la coalition.
Mais il y aurait encore de l'imputabilité à aller chercher puis à s'assurer.
Mais on tente de dépolitiser le système de santé. Voyons si ça marche ou si ça marche pas. C'est peut-être une grosse erreur aussi. Peut-être qu'on crée des boîtes supplémentaires, déjà qu'on en a beaucoup avec les ministères, les permanences et ainsi de suite. Mais si c'est un modèle qui marche, moi, je suis presque qu'on l'essaye au niveau économique.
C'est
absolument.
C'est un ministère pareil qui est complexe. Là.
Oui.
Si on sort de ça, ça reste que tout ce qui est économie, affaires et autres, tellement volatile, c'est fluide, c'est des risques. C'est sûr, tu peux pas t'attendre à avoir que des succès. je comprends qu'on peut se positionner par rapport à Pierre Fitzgibbon, mais en général, si on prend un pas de recul, ça reste un ministère.
Si l'actualité est capable de noter des écoles, je suis pas mal sûr que si on se force un peu, on est capable de noter la performance de ministre de l'Économie, d'une façon ou d'une autre.
Moi, je suis d'accord avec ça, par
contre. Entièrement d'accord. Autre histoire que je voulais jaser avec vous autres, c'est ça a débuté sur le Spotted Université Laval hier. Il y a quelqu'un qui a écrit « Salutations à l'administration de l'Université Laval qui a permis à un enseignant en qui de garder son emploi après avoir passé un an en prison pour possession de pornographie juvénile, donc février 2023. Aucune mention de ça sur le site de l'université. C'est vraiment cool de savoir qu'un crotté comme ça enseigne à des élèves. » Et là, tu comprendras qu'on s'est tous intéressés à ce fameux spotted-là. Et on a retrouvé l'individu. Sous la plume de Pierre-Paul Biron, on a trouvé que l'enseignant François-Mathieu Potvin va effectivement faire un retour au département de génie mécanique de l'Université Laval, va pouvoir discuter avec ses étudiants, alors qu'il a quand même passé plusieurs mois de prison. Là. Il a été condamné à un an de prison pour possession de pornographie juvénile. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il rencontrait des prostituées, leur parlait de ses envies d'agresser sexuellement des enfants. Mm-hmm. Les prostituées se sont confiées aux policiers. Les policiers avaient assez d'éléments pour demander au juge s'il pouvait faire une descente. Les juges ont dit « Oui, tu peux faire une descente. » On a fouillé dans ses affaires. Puis il était en possession de matériel qui impliquait des enfants entre 5 et 12 ans sur certains fichiers. Là.
Quand il rencontrait des prostituées, il regardait ces photos-là en se branlant en présence de la prostituée. Donc, c'est ces témoignages-là qui ont fait en sorte qu'il s'est retrouvé en prison, qu'il a purgé sa peine. Je comprends les jeunes, je comprends les étudiants d'avoir un malaise majeur avec ça. L'université est très avare dans ses réponses. On sous-entend qu'il a purgé sa peine envers la société puis qu'il a le droit de réintégrer son emploi. Mais quand la même université tient à rayer de ses rangs des professeurs qui font de la désinformation ou qui ont des idées contraires à la logique ou au bon sens, je comprends le débat d'idées et je le respecte, mais si tu empruntes la ligne dure avec des professeurs controversés au niveau des idées, je pense que tu peux te permettre d'appliquer la ligne dure envers des pédophiles. Mm-hmm. Que la sentence soit terminée ou pas, à chaque fois que tu regardes une image, tu es complice de l'agression d'un enfant. On en a parlé hier, que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis. Je veux dire, t'es complice de ces crimes-là. Je comprends les jeunes d'être mal à l'aise. L'université, ça devrait être le protecteur des étudiants avant d'être le protecteur des professeurs pédophiles. Je trouve que l'Université Laval paraît très, très mal dans ce dossier-là, d'autant plus qu'on est capable de faire des comparables avec d'autres dossiers dans l'actualité où l'université tient son bout mordicus.
Oui, mais tu parles du dossier de Patrick Provost.
Oui, absolument.
Il s'est fait mettre dehors pour délit d'opinion scientifique.
Oui.
Puis on a été un peu impliqués là-dedans parce que Patrick Provost, je faisais les remplacements l'été, j'avais entendu parler un peu de son histoire. Puis là, il mentionnait, lui, que les vaccins contre la COVID pour les enfants, c'était pas la meilleure des idées. Puis il était venu donner son opinion en ondes et la semaine d'après, il aurait été suspendu par l'Université Laval, puis lui, bien, continuait à donner des entrevues sur ce sujet-là, et là, il aurait empiré son cas jusqu'à ce que l'Université Laval dise, ben toi,
c'est
on
assez.
Te congédie parce que t'es pas d'accord avec la majorité des scientifiques, puis tu nous causes un tort à l'université. Mais dans l'autre cas, le gars, il est pris avec possession de pornographie juvénile, fait 12 mois de prison, puis on lui permet de revenir. Pascal, je sais pas, tu es étudiante à l'Université Laval, tu côtoies-tu un professeur comme ça ou tu fais tout pour l'éviter? Puis quand tu es professeur à l'Université Laval,
t'as
tu dois
choix,
avoir
des
un...
fois, si c'est lui ton prof qui est attitré, puis ça joue sur ta...
Mais tu dois avoir une certaine éthique quand tu es un professeur. Nous autres, si on nuit à notre entreprise, Denis, on se fait sacrer dehors.
Je pense que oui.
Mettons que je prends...
Mais est-ce que tu te sacres dehors
si tu as
des mauvais comportements?
Oui. Moi, je vais te donner un exemple.
Si tu les as pendant que tu travailles.
Je prends le truck de la station, je m'en vais dans un festival X, puis je reviens, je conduis trop vite, je suis complètement sous. Ben tu comprends que mon employeur peut me crisser dehors. Là.
Factuellement. Logiquement.
Parce que je nuis à mon entreprise.
Oui.
C'est dans nos contrats, normalement.
Oui, oui. Mais dans le cas, écoute, il n'y a pas un crime, je pense, qui répugne davantage et qui rend plus mal à l'aise que les crimes contre les enfants. Une université devrait être sensible à ça. Tout ce qu'on offre présentement aux gens qui sont mal à l'aise, c'est de rencontrer des intervenants sociaux pour en discuter. Entre autres, je sais qu'il y a une étudiante, je crois, qui s'est exprimée en disant « Moi, j'ai été victime d'agression sexuelle quand j'étais enfant. » Puis je veux pas me ramasser dans sa classe. Je pense que c'est tout à fait normal et légitime. Puis tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec l'histoire de Patrick Provost, l'université a calé sa shot. L'université a choisi son camp et a choisi la ligne dure. Si tu choisis la ligne dure au niveau des idées, il faut que tu sois conséquent et logique. Le débat d'idées, si tu peux pas l'avoir à l'université... OK, fine. Mais si on ne peut pas avoir de débat d'idées sur des sujets controversés de l'actualité, qu'on soit d'accord ou pas avec Provost, ben je pense pas qu'on a de débat à avoir avec des gens reconnus coupables de possession de pornographie juvénile. Enlever ça du chemin des jeunes.
Il n'y a jamais de solution pour les gens autour. Moi, c'est ce qui me rebute le plus. T'sais, lui, il va réintégrer ses cours, il va en donner et tout. Mais pour les étudiants, dans ce cas-ci, il n'y a pas de solution du genre on va vous mettre avec un autre prof si vous êtes mal à l'aise, on va pouvoir continuer votre cursus scolaire d'une autre manière.
C'est parce que tout le monde va dégager.
Le monde dégage, ouais, c'est ça. C'est peut-être la réponse.
Je pense que oui.
Dans une école secondaire, le professeur, il ne travaille plus.
Ben j'imagine, j'espère.
Donc, l'Université Laval se considère comme le Vatican. Il n'y a personne qui peut
mais
leur dire...
Mais c'est tombé où, en deux craques? Moi, j'ai vraiment de la misère à croire que c'est une affaire qui était complètement assumée, là.
Ben, ça a l'air que oui. Puis de ce que je comprends, c'est peut-être au niveau du droit, ils n'ont pas de motif valable de congédier ce professeur-là parce qu'il a purgé sa peine. Je sais pas.
Je suis sûr qu'il y a des avocats qui peuvent nous écouter au 88-971-1021 puis qui grugeraient pas mal. Écoute, le code.
Je sais qu'il y a des gens qui ont été consultés dans les textes du Journal de Québec et du Soleil, puis les observateurs disaient que c'est le droit de l'étudiant qui prime d'abord et avant tout à l'université. Puis s'il y a des étudiants qui se sentent brimés dans leurs droits parce qu'ils ont un professeur pédophile... Je pense que c'est eux qui doivent avoir le dernier mot, puis je pense que l'Université Laval doit faire preuve d'empathie envers ces jeunes.
Et une crédibilité universitaire, c'est quand même important.
C'est
immense. Moi, me faire enseigner par quelqu'un qui a ce passé criminel-là, j'ai aucune envie d'écouter, je ne le trouve pas crédible.
Je pense qu'il y a des domaines d'emploi où après un crime comme celui-là, tu peux juste plus
pas
là.
Être là.
Exact.
Donc, François-Mathieu Potvin va réintégrer son poste de professeur au département de génie mécanique de l'Université Laval.
Ça ne pourra pas tenir, Yann. Là. C'est rendu public, son nom est rendu public. C'est plus une affaire de corridor d'Université Laval. Je suis convaincu que dans 3 semaines, 1 mois, max, on va avoir une nouvelle comme de quoi qu'il travaille plus là. Lui, le premier. Hey, penses-tu qu'il va s'ostiner à rester là, dans ces circonstances-là?
C'est 160 000 piastres de salaire par année à un prof à l'Université Laval.
Hey, mais là, je comprends, mais c'est parce que ça parlera encore plus de l'individu.
J'ai vu comment il s'était déguisé quand il était accusé au palais de justice.
Ouais, ça faisait bien, c'était à la COVID.
Ouais, mais même pour la COVID, il disait de mettre le masque, là, pas le wetsuit. Là. Je veux dire, il s'est littéralement déguisé pour pas se faire voir. Là, on connaît son nom, puis les photos sont sur le truc de l'Université Laval. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui va se garder le... Il doit pas être très à l'aise avec ce qui se passe aujourd'hui, puis c'est normal. Puis j'ai aucune sympathie. Mais là, l'université devra faire quelque chose si le gars n'est pas assez mature pour le faire lui-même.
Mais c'est un peu gênant que l'Université Laval ait automatiquement mis son lien, fin au lien d'emploi avec ce gars-là à partir du moment où il a été déclaré coupable de ce crime-là. Tu te fais pogner, là, je vais peut-être me faire juger en disant ça, mais tu te fais pogner pour une balloune, OK? T'as été cave, mais fais-toi-en pas pogner pour deux parce que là, c'est fini.
Écoute... c'est l'histoire de donner une deuxième chance. Puis des ballons, il y en a plein qui ont eu des deuxièmes chances puis qui ont réussi à retenir une leçon difficile d'un comportement comme celui-là. Mais après 2 fois, je connais pas beaucoup d'employeurs. Enfin, dans un couple, parlons de fidélité, tu te fais pogner 2 fois. Il y a des gens, 1 fois, qui vont pardonner et vont être capables de passer l'éponge. Pas toutes, mais quelques-uns, quelques-unes. 2 fois! As-tu beaucoup qui vont qui mettront pas les valises sur le bord de la porte? Pas sûr.
Il y en a des plus compréhensifs que d'autres.
Ouf!
Ouais. Hey, je vais juste revenir 30 secondes sur ce qu'on sait.
C'est
ce qu'on
une compréhension
a.
de la situation.
Ouais.
C'est un drôle de verbe.
Non, c'était pas un drôle de verbe.
Mais je le trouve bizarrement choisi. Ouais. Pour avoir un débat là-dessus, finalement.
Je voulais revenir un peu sur ce qu'on avait jasé hier. Cette femme-là qui est devant la justice pour voir ses 80 agresseurs.
Ah. Ouais.
Entre 80 et 50 agresseurs qui sont devant elle, qui se font juger pour agression sexuelle avec son mari aussi, avec qui elle était pendant plus de 50 ans. Je regardais les reportages hier. Quelle femme incroyable. Ça fait 2 ans que ça s'est passé. Elle assiste au procès. Elle veut faire face aux individus qui l'ont agressée. Moi, là, cette femme-là a tout mon respect.
Tu sais, des fois, tu vois des gens qui tombent catatoniques, puis il n'y a personne qui est capable d'expliquer pourquoi. Là. Je peux-tu dire que cette femme-là, elle aurait eu le droit, là? De genre, plus parler, plus réagir, s'en aller d'un centre où ce qu'il y a promène en chaise roulante. Ouais. Tu sais, un état de choc duquel tu te remets juste pas. Là. Moi, de voir qu'elle est là, puis qu'elle fait face, puis qu'après ces révélations-là qui arrivent des décennies plus tard, ouais. suivant tous ces crimes-là, ça prend quelqu'un qui est fait solide en tabarnouche. Je sais pas si c'est une personne qui s'empêche de vivre les séquelles de ça le temps du procès, puis qu'après ça, ben là, j'espère qu'il y a des gens dans son entourage qui vont s'occuper d'elle beaucoup, beaucoup. Mm. Tu sais, on sait jamais comment l'humain réagit face à ces choses-là. Peut-être que le choc n'est pas arrivé encore, mais il va assurément arriver plus tard.
Pour la petite histoire, pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier et qui n'ont pas entendu parler, c'est une femme qui a appris par la bouche des enquêteurs, parce que les enquêteurs venaient arrêter son mari, qu'elle avait été agressée sexuellement pendant son sommeil pendant des années par des individus qu'elle ne connaissait pas. C'est son mari qui était initiateur de ça. Son mari mettait sur certains sites de rencontres une possibilité à des hommes de venir agresser sexuellement une femme pendant qu'elle dormait.
Venez violer ma femme, adore, je vais filmer.
70 % des hommes ont accepté, 30 % seulement des hommes ont refusé. Et à un moment donné, ben, cet homme-là s'était fait... l'histoire de départ s'était fait prendre parce qu'il prenait des photos sous les jupes des jeunes filles. Puis il s'est fait arrêter. Les enquêteurs ont fouillé dans le cellulaire. Puis là, ben, c'est là qu'ils ont découvert qu'il y a une dame qui se faisait agresser régulièrement pendant qu'elle dormait. Cette histoire-là, là, regardez les reportages. Vous allez voir là, cette femme-là. J'ai tellement de l'empathie pour elle. Sa famille, sa fille, sa propre fille dit « Mon père, c'est un des pires monstres que l'Europe ait connu. »
C'est où ça se passe?
En France.
En France?
Ouais.
C'est suivi là, de façon... Et mon Dieu, j'ai jamais vu un procès de ce type-là en France, aussi suivi autant par vidéo, par caricature de gens qui sont dans la salle puis qui font des images.
L'actualité étant ce qu'elle est, la France était sur son rêve olympique. Ouais. Tu passes de la fébrilité des Olympiques, de ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, à ça, en l'espace d'une semaine et demie, 2 semaines. Ça nous rappelle qu'on est capable de haut, mais qu'on est capable de bas sans bon sens. Là. Puis c'est de voir le nombre de personnes qui, implicitement, ont participé à cette patente.
Puis admettons qu'on essaie de voir l'envers de la médaille, là, parce qu'il doit certainement avoir des choses qu'on sait pas. Hier, dans le documentaire que je vous ai envoyé, il y a des gars qui pensaient que la victime était acceptait de se faire droguer pour dormir, pour se faire agresser sexuellement. Fait que t'imagines à quel point, il y a de la vocasserie là-dedans, là, mais à quel point les avocats sont un peu départagés dans tout ça. Puis le juge qui va dire, attends un peu, ça se peut que Jean-François, qui a été voir cette femme-là pour l'agresser sexuellement par l'initiative de son propre mari, pensait réellement que la femme était consentante.
Ben, c'est ma note, moi. Après avoir lu ça, là, j'ai pris une note sur la réflexion que je me faisais sur bien des séquences là, de la petite vidéo. Puis je me disais, mais quel exercice de droit qui va être derrière ça? J'ai l'impression que là, ils font un procès comme général, mais ça se peut que ça vire en plein de types de procès. Là.
Mais mettons...
Moi, j'y vais pas.
Mettons, je veux violer quelqu'un qui dort, OK?
Ouais.
Puis qu'on me dit, elle est consentante. Ben, moi, c'est bien de valeur, là. Va falloir que j'y parle avant. Tu comprends-tu? Je peux pas arriver après puis dire, ouais, mais lui, il m'a dit qu'elle voulait. Puis non.
C'est un bon réflexe.
J'arriverai pas le jour où je vais avoir une discussion avec le couple avant.
Ouais.
Toi, t'aimes ça prendre de la drogue, t'es un semi-inconscient, t'es vraiment dans le consentement.
Premièrement, là. Violer quelqu'un qui dort, ça me dit rien. J'aime ça quand ça bouge. Je veux dire, en général, j'aime ça quand ça grouille des deux bords. Oui. C'est un échange.
C'est un échange.
Il faut être deux pour danser le tango.
Mais des fois, je tombe à terre de voir qu'il y a certaines pratique que j'ignorais. T'sais, moi, je ne savais pas que ça...
Mais c'est là
que
c'est un viol.
Ben, je ne savais pas que ça pouvait exister. Il y a de ça quelques années, tu dois t'en souvenir, je nommerai pas de nom, là, mais on avait appris dans l'actualité qu'il y avait un gars qui avait malheureusement transmis le sida à des partenaires. Puis là, ben, pendant le procès, on a appris que le gars, il était adepte du barebacking.
Oui.
Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il communiquait avec d'autres gars sur une plateforme, puis il disait... ben moi, je suis un adepte du barebacking. Voici comment je veux que ça se passe. Donc, le gars se couchait la face dans son oreiller. Il n'avait jamais rencontré l'individu. Mm-hmm. L'individu rentrait dans l'appartement et arrivait derrière l'autre, puis il faisait ce qu'il avait à faire, puis après ça, quittait. Les deux ne se voyaient pas.
Semble que...
Tu dis, tabarouette, c'est pas...
Ouais.
Mais c'est rendu fort, là.
Moi, il y a un range immense de trucs que je ne comprendrai jamais, mais à la base, là, à partir du moment où tous ceux qui sont là, consentent. Faites ce que vous voulez. Ça vous regarde. Sucez-vous les orteils. Lichez-vous les aisselles. Faites ce que vous... Je l'ai cherché les pires.
Je l'ai trop dur.
C'est les deux premiers qui viennent.
Je me demande même, je suis en train de me questionner, qu'est-ce que je ferais avant, là? Les aisselles,
les orteils. Marceau a comme pris de la distance. Hein, il s'est reculé de trois pieds. Mais tu comprends le point de base de ça?
Des fois, je me dis, je dois être plate en sacrement pour mes partenaires.
Oh, ouais. On est relativement bien dans notre platitude, je trouve. Soulagé même un peu, je te dirais.
Ouais. Denis, un gros merci.
Ben, merci.
Je te souhaite de passer un beau week-end avec tes boys. Ton hockey, tu commences?
Le hockey commence la semaine prochaine. On termine le soccer en fin de semaine. Le
soccer n'est pas fini?
Non, il reste la petite journée, le fun à Charlebourg. Tous les clubs de Charlebourg jouent les uns contre les autres. Ils jouent 2-3 games. Après ça, c'est les jeux gonflables, les pizzas, les hot dogs, puis le plaisir.
Et t'as-tu permis de jouer avec eux autres? Il y a une journée parents-enfants?
Je l'ai manqué. Pour des raisons d'athlétisme.
Papa, il a mal à un genou.
Ouais, papa, il est en crocs, là, je veux dire, il peut pas y aller.
Papa, il a mal à un genou, demande à ton grand-père.
Tu te forces même pas.
Non, mais le pire, c'est que je me force.
Non, la question était, tu te forces même pas, c'est oui ou non?
Je me force pour le faire chez nous, mais je suis pas un gars social. Tu sais, dans un contexte où il y a plein de parents, plein d'enfants, j'aime moins ça. Je risque même ma vie à aller dans la trampoline, jouer au soccer avec les gars, mais je le dis, hein. Papa, là, il a mal au cœur en rentrant dans la trampoline. Fait que soyez indulgents, ça se peut qu'après deux lancers, je quitte, ce qui est déjà arrivé.
Mais je vais
au bout
maison,
de mes aptitudes.
Là, tu... oui.
Ben oui, j'aime ça. J'aime ça jouer au soccer, j'aime ça jouer au hockey, dès qu'on a des opportunités. Mais la trampoline est pour moi un sport extrême.
Mais la dernière fois que je suis allée voir mon neveu et ma fille l'été dernier, j'ai décidé que j'y retournais pas cette année. Là. Lendemain de veille, les activités étaient écrites sur un papier. La date avait un tapis qui est plein d'eau, là,
sur
lequel faut que tu te pitches, là, jusqu'à tu peux revenir dans la clôture. Il y avait trampoline et il y avait concours de bombes.
C'est parfait, ça.
Quand t'es aimes ces enfants-là, là, tu fais tout, mais difficilement.
Si t'es pas raqué le lendemain, t'es pas un bon parent.
Voilà. Denis Gravel, salut.
Hey, salut, bonne fin de semaine.
On fait une courte pause, on revient. Rage Against the Matin.